Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Martine Chaponnière, tu nous as donc parlé du mouvement féministe de nos grands-mères et de la place de l'éducation, éducation qui tend à vraiment à faire de la femme une vraie femme, dans le sens où elle était acceptée, acceptable à l'époque, c'est-à-dire une bonne mère, une bonne épouse, une bonne citoyenne aussi, pour pouvoir mériter sa place près de l'homme. Donc c'est vraiment un rôle de complémentarité de l'homme et qu'elle doit bien savoir tenir ce rôle. Mais c'est bien un rôle bien défini par la société de l'époque. Alors on va allègrement sauter presque 100 ans, en tout cas 50 ans, on arrive dans les années 70-80, avec l'émergence de ce qu'on peut appeler, le nouveau mouvement féministe, tu l'appelles le néo-féminisme, le féminisme historique, comme on a pu l'appeler aussi à certains moments, il y a eu beaucoup de termes. Et tu le décris dans ta thèse, on ne va pas tout raconter ce qu'il y a dans ce pavé de combien 400 pages presque, avec la bibliographie, non, 360 pages. Vous le lirez sûrement bientôt, il va sûrement paraître dans un livre, vous pourrez le lire. On va donc sauter toute cette description pour en arriver au thème de l'éducation, qui, dans les années 80, pour les femmes, s'oriente un peu dans deux directions. Il y a premièrement une revendication de dire « mais les femmes sont discriminées dans l'éducation, nous voulons avoir les mêmes droits à l'éducation que les hommes ».
Oui, alors ça, c'est la première tendance qui est fortement inspirée par Simone de Beauvoir, dont tout le monde connaît la phrase « on ne naît pas femme, on le devient ». Enfin, tout le monde la connaît. Je me suis rendu compte avec une de mes étudiantes qui m'a écrit « on est N'EST, pas femme, on le devient ». Donc, je me suis rendu compte qu'au fond, ce n'était pas si connu que ça encore. Mais mis à part cela, il y a eu toute une tendance qui s'est développée qui était de revendiquer en effet l'éducation égalitaire. Et c'est-à-dire suppression des cours ménagers, dont on parlait tout à l'heure. L'idée présidant à cela étant, si les femmes ont exactement la même éducation que les hommes, elles auront une égalité des chances totale. Et ça, ça continue d'ailleurs d'être une des revendications du mouvement. Je ferai peut-être de nouveau une parenthèse là, quitte à être un peu confuse, en faisant une autocritique de cette thèse en général qu'il faudrait peut-être que je fasse ici, qui a été relevée pendant la soutenance et que je trouve intéressante, c'est que je parle du premier mouvement et du deuxième mouvement, par exemple, ou du nouveau mouvement, comme tu disais, comme s'il s'agissait de deux choses radicalement différentes. Or, ça n'est pas radicalement différent. Il y a des ruptures et il y a des continuités. Et c'est peut-être arbitraire de les séparer d'une façon aussi violente que je le fais. D'une part, parce que l'ancien mouvement existe encore. J'en connais des femmes qui appartiennent à l'ancien mouvement et qu'elles vivent aujourd'hui et elles militent encore aujourd'hui. Et d'autre part, parce que nous, en tant qu'héritière de cet ancien mouvement, on a gardé une part de ce qu'elle voulait. Et je pense entre autres que cette revendication égalitaire, qui était malgré tout très présente dans l'ancien mouvement, en particulier chez les suffragistes, elle nous marque encore beaucoup. Toute l'histoire, par exemple, sur les barèmes vaudois, sur le fait que les filles se canalisent aujourd'hui dans des professions dites féminines et tout ce genre de choses, toute cette critique qu'on fait, c'est une critique purement égalitaire qui agace par exemple les Italiennes aujourd'hui, le mouvement italien. Et nous en Suisse, on est très suisse sur cette question-là. Alors ça, c'est la première grande direction et qui a été très soutenu également par les organisations internationales. Le discours de l'UNESCO, etc., c'est aussi du Conseil de l'Europe, de l'OCDE, c'est le discours « les femmes doivent avoir la même éducation que les hommes ». Il doit y avoir autant de femmes que d'hommes dans les écoles, les mêmes programmes, etc. Donc c'est un discours qui est presque, je dirais aujourd'hui, l'opinion publique.
Mmh. Alors, dans la manière dont tu en parles, c'est que tu es critique par rapport à ce discours.
Oui, parce que je prends l'exemple, par exemple, de la mixité. Le salut, visiblement, de l'égalité est, depuis une vingtaine d'années, la mixité. Si les classes sont mixtes, que les programmes sont les mêmes, etc., ça veut dire qu'il y a l'égalité des chances. Or, je ne suis pas convaincue que ce soit juste, en particulier dans les branches où les filles sont plus faibles que les garçons, les maths, ou dans les branches où les filles sont plus fortes que les garçons, les langues. On peut se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas séparer les filles et les garçons pour ces branches-là, de manière à ce que les filles, par exemple en maths, ne se sentent pas immédiatement sous-évaluées et aient un esprit de compétition entre elles. Moi, je crois à l'esprit de compétition à l'école. Je dénigre pas cette valeur d'aujourd'hui. Je crois que ça permet d'avancer aussi. Alors que quand elles sont avec des garçons, elles savent que de toute façon, elles sont moins regardées par les profs, moins intéressantes pour les profs parce qu'elles sont moins bonnes. Je pense qu'il pourrait y avoir une émulation saine entre
filles. Parce qu'elles se sentent moins bonnes.
Elles se sentent moins bonnes. Et il y a les expériences qu'on fait, par exemple, aux États-Unis sur les universités non mixtes montrent que il y a plus de femmes qui embrassent des carrières masculines quand elles viennent d'universités de filles, ce qui est quand même intéressant, je trouve. Alors, tout ça pour dire que je trouve qu'il faut faire une réflexion sur cette égalité à tout craint. Je crois que l'égalité des chances, on devrait savoir aujourd'hui que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Mais au contraire, prendre en considération les particularités des différents groupes sociaux pour privilégier les uns au détriment carrément des autres.
Mmh. Donc en fait, le mouvement féministe des années 80, des années 70-80, balance un peu entre ces deux pôles, la recherche de l'égalité et la recherche de la différence et la reconnaissance de la différence.
Alors ça, c'est l'autre grande direction. Et de nouveau, on n'est pas tellement loin de l'ancien mouvement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'ancien mouvement tablait sur la différence. Là, je crois que la grande différence aujourd'hui, si je puis dire, la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que le nouveau mouvement s'interroge sur ce qu'elle est, cette différence. Alors que pour nos grands-mères, c'était acquis, la différence. On savait ce qu'elle était. C'était la maternité.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est peut-être une réflexion qu'on peut faire maintenant, parce que quand même une grande partie, beaucoup de femmes ont fait ce cursus scolaire, même à l'université, ouais. Même ont un métier, et on se rend compte finalement qu'on doit se mouler, qu'on doit se plier à un moule dans lequel on ne se reconnaît pas. Et qu'en fait, cette recherche d'égalité, c'était nous calquer sur un modèle, le modèle masculin, l'égalité par rapport aux hommes. On devait devenir comme des hommes.
Ouais.
Et on s'est rendu compte, peut-être à travers ce cheminement dans l'éducation, que finalement, c'est à travers, entre autres, l'éducation qu'on apprenait un nouveau rôle de femme, mais qui était toujours aussi normatif, aussi serré, stéréotypé.
Tout à fait, absolument. Et à mon sens, une des grandes, je ne peux pas dire invention, mais un des grands concepts qui nous permet d'avancer dans le nouveau mouvement, c'est celui de sexisme, qui est un concept qui n'existait pas. Et on se rend compte que l'école est sexiste, que tout est sexiste dans l'école, parce que l'école est fondée sur un modèle, sur une vision mâle de la société. Et dès lors, les filles s'y reconnaissent pas en tant que filles et en tant que femmes, si ce n'est en faisant les mêmes performances que ce qui a été inventé pour les hommes. Donc ça, c'est l'autre grand courant. Alors c'est tout ce qu'on voit, par exemple, dans la critique des manuels scolaires sexistes, toutes les études qui sont faites sur les enseignants. Qui traitent différemment les garçons et les filles sans s'en rendre compte la plupart du temps et un fonctionnement sexiste de la société, tout le gommage par l'histoire officielle du rôle des femmes, etc.
Donc en fait, si je reprends là des termes d'ailleurs que tu utilises, le début, disons le féminisme de, je ne sais pas comment l'appeler, du début, ou l'ancien, comme tu l'appelles, mettez en avant apprendre, l'apprentissage, l'éducation comme apprendre, et puis maintenant, on en vient un peu à désapprendre.
Oui, alors c'est l'objet de la thèse, justement, c'est que la façon de considérer l'éducation, malgré toutes les continuités qu'il y a pu avoir entre le premier mouvement et le nouveau mouvement, là, il y a vraiment une rupture absolument totale dans la mesure où le salut, c'était apprendre, pour nos grands-mères, disons. Et aujourd'hui, je crois que le salut, ça n'est pas apprendre ce que les hommes nous disent ou considèrent qu'il faut apprendre, mais désapprendre ce qu'on nous a dit qui était la féminité. Désapprendre, en fait, une féminité qui n'a pas été définie par nous, mais qui a été définie par les hommes. Toute cette, tout ce qui caractérise la femme comme féminine, à mon sens, est dénoncé comme étant une construction masculine. Donc, enfin, d'être...
Mais là, là-dedans, on entre encore, on est encore dans la phrase de...
De Simone de Beauvoir. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'elle a eu un insight extraordinaire quand elle a dit cette phrase. Simone de Beauvoir, à mon sens, est la papesse, si on peut dire, du nouveau féminisme. Même si, dans son ouvrage... ça reste encore assez traditionnel comme vision, parce qu'elle disait qu'il faut intégrer le monde des hommes, il faut que chaque femme travaille, etc. Elle a ensuite d'ailleurs évolué par la suite. Mais je crois que surtout cet apprentissage de la féminité et dès lors des stéréotypes que ça représente, et ce désapprentissage que nous, on essaye de faire aujourd'hui, je crois que les mères essayent aussi de faire ça avec leurs filles. Toutes ces choses qu'on ne peut plus entendre du genre, parce que c'est toujours les mêmes exemples qui sont donnés, « pleure pas, t'es un garçon », je trouve que c'est très intéressant pour les filles sur le plan gestuel, par exemple. Encore aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une mère qui, quand sa petite fille est en robe et se tient les jambes écartées, comme toutes les petites filles du monde, sa mère ne lui dit pas « ferme les jambes ». Ça, c'est un apprentissage de la féminité, de fermer les jambes, précisément, puisqu'il faut les ouvrir qu'à un seul moment précis que tout le monde connaît bien. Alors, moi, je crois que c'est ce désapprentissage-là que les femmes essayent de faire aujourd'hui.
Mais moi, j'irais plus loin que simplement dire « on doit désapprendre ce qu'on nous apprend être la féminité ». Je crois que quand même, il y a eu toute une série de recherches, entre autres à travers les recherches féministes, qui est de désapprendre aussi une vision du monde qui est la vision des hommes, de la société masculine. C'est-à-dire le monde tel qu'on nous le décrit, tel qu'il devrait être, finalement, c'est le monde des hommes.
Tout à fait. Oui, absolument, et j'aurais dû le mentionner. En effet, je pense à un exemple où les femmes disent toujours, à propos de la différence, les femmes disent toujours « oui, mais nous, on est différentes ». Et déjà, de dire « nous, on est différentes », c'est de garder la même référence qu'est l'homme. Nous, les femmes, on devrait dire « mais les hommes sont différents de nous », plutôt que dire « oui, mais nous, les femmes, on est différentes ». On dit différente de quoi? De la norme. Donc, il y a toute une question de vocabulaire, et je me heurte dans la thèse à la question du langage avec un succès plus ou moins réussi.
Parce que tu cites justement le langage comme une des formes, une des voies de ce...
Ah, mais je crois que le langage est une matrice, vraiment, de notre forme de pensée.
Alors, dis-en un peu plus. Moi, j'adore les choses sur le langage.
Mais il est tellement masculin, ce langage, que c'est très difficile pour nous d'utiliser un langage féministe, et même, je dirais même pas un langage féministe, mais un langage qui soit pas sexiste. Dans ma thèse, je me suis constamment heurtée, par exemple, au fait que prédécesseur, ça a pas de féminin. Successeur non plus. Or, comme je parle tout le temps de l'ancien et du nouveau mouvement, j'ai tout le temps le problème de successeuse et successeur. Deuxième et prédécessrice et prédécesseur, etc. Et puis j'ai un flottement absolument dramatique tout au long de la thèse que j'explique à la fin, parce que j'arrivais pas à dépasser mes conditionnements sur le langage. Et ça s'est produit par exemple avec le mot auteur, où j'arrivais pas, pourtant j'en suis intellectuellement convaincue qu'on peut écrire auteur avec E, et je n'arrivais pas à dépasser mon conditionnement qui m'a appris que auteur, ça prend pas de E. Or, je sais, c'est pas seulement l'orthographe, hein, c'est une façon de concevoir le monde aussi avec l'auteur. L'auteur est masculin. Après tout, pourquoi pas écrire autrice? Mais on nous a dit qu'autrice, c'était horrible, que auteur avec un E, c'était laid ou inimaginable. Et moi, je ne suis pas arrivée à dépasser ce conditionnement. Vraiment, je devais me faire violence pour écrire auteur avec un E. Tout en étant convaincue que c'est ça qu'il fallait faire.
Très
absolument. Peut-être aujourd'hui, je le ferai. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est une thèse de doctorat et que la contrainte académique pèse lourd dans ce type de rédaction. Mais juste pour dire ça, là, j'ai trouvé intéressant parce que ça montre aussi les ambiguïtés dans lesquelles on est, nous, quand on essaye de concilier militantisme et académisme.
Et d'ailleurs, on nous reproche toujours quand on veut introduire la différenciation des genres, quand on parle de ne pas dire les hommes et les hommes et les femmes, que ça alourdit le texte.
Voilà, exactement, ça, exactement. Hein, joli, celles et ceux, ça. Etc., les gens disent, mais vraiment, vous ne savez pas écrire, ma pauvre dame.
Alors, ce désapprentissage, pour arriver à quoi? Parce que finalement, on ne naît pas femme, on le devient, mais on le devient, mais on le devient comment? Puisqu'on voit que l'éducation qu'on nous propose, c'est de devenir justement une femme bien stéréotypée. Donc qui on est?
Ben, c'est ça la grande question. C'est-à-dire que moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus de modèle. Alors que, de nouveau, dès le moment où l'éducation était le salut des femmes et de l'humanité en général, ça voulait dire qu'il y avait un modèle qui était le modèle que tu rappelais tout à l'heure de bonne épouse, bonne mère, bonne citoyenne, qui était assez clairement défini. Aujourd'hui, dès le moment où il y a des apprentissages, je crois qu'on sait ce qu'on veut désapprendre, mais on ne sait pas quoi mettre à la place. Et quand il y a refus de modèle, et je crois vraiment qu'il n'y a plus un modèle qui vaille aujourd'hui, même le modèle qui a prévalu quelques années, qui est celui de la superwoman, qui sait tout faire, qui a trois enfants adorables et qui est PDG chez Manpower, est un modèle qui ne vaut plus parce qu'il ne peut coller qu'à une certaine partie de la population extrêmement, extrêmement privilégiée. Ce qui fait que devant le refus des modèles et l'impossibilité d'en créer d'autres, à mon avis, il y a un déplacement qui s'est fait où on ne cherche plus ce qu'est la femme, mais au fond ce qui caractérise le féminin. Et c'est ça que j'essaye de montrer, c'est que il y a plus une femme avec un grand F qui vaille, mais il y a des femmes. Ça, on avait déjà montré avec le nouveau mouvement. Enfin, nous sommes toutes une, on disait. Mais en revanche, il y a quand même une recherche d'identité qui est absolument manifeste et qui se canalise plus ni sur la femme ni sur la féminité, mais sur le féminin. Et il faut se poser la question de savoir si le féminin n'est pas un terme pratique, disons, pour éluder d'autres questions. À mon avis, c'est l'hypothèse que je fais.
Elle dit, j'ai épuisé mon enfance à ressembler au désir de mon père, au regret de ma mère, je n'ai rien fait. À l'école, j'ai tout raté, je ne suis pas institutrice, juste la femme de quelqu'un, voisine ou camarade. En général, on m'aime bien. Elle dit, j'ai épuisé mon enfance à ressembler aux rêves de mon père, à la peur de ma mère, je n'ai rien fait. Je ne vais plus au bureau depuis 13 mois bientôt. Tellement de choses en moi se disent, quelquefois j'ai des crises. Mais je ne peux pas vider mon sac de peine. C'est comme d'où je viens, où je vais, c'est dur de vivre avec toi. Homme t'aimer très haut, très bas, pour le désir et pour le froid. T'aimer pour le voyage qui est en toi. T'aimer pour la pâleur de l'air, pour l'odeur de la cire, l'odeur du bois. Frère du long combat quotidien contre le mensonge et la mort, la bêtise et la mort, tous les pouvoirs, traître ceux-là qui nous proposent des chemins sur le papier. Quand nous arrachons les chiens dans les souches du vieux monde et plantons les murs d'un pays. Elle dit, frère du long combat quotidien contre le mensonge et la mort, la bêtise et la mort, tous les pouvoirs. Dans ce convoi de liberté, vous m'accordez le marche-pied. Aimez-moi de force patiente et tendre et vigilante. J'y prends. prendrai maille à maille mon quart de veille. C'est fou, tu sais, homme d'où je viens, où je vais. C'est fou de vivre avec toi. Homme, t'aimer plus loin que toi, pour le délire, pour la foi. T'aimer pour le voyage qui gère ma moi. T'aimer pour la chaleur de l'air, pour l'odeur de la cire, l'odeur du bois. Elle dit, homme fragile et désirable, ne crains pas de perdre ton bien, qu'on t'arrache ton bien. C'est venu, donne-moi, laisse-moi briser les images de ton orgueil. Images fausses et meurtrières, virilité, misère, car je ne t'appartiendrai plus. Elle dit, homme fragile et désirable, ne crains pas de perdre ton bien, qu'on t'arrache ton bien. C'est la mue, toujours en deçà du désir, et chaque geste est déchirure. Laisse-moi naître de moi-même, t'inventerai de même, pour un matin limpide d'amour nouvelle. C'est bon, tu sais, homme d'où je viens, où je vais, c'est bon de vivre avec toi. Homme, s'aimer à mille fois, pour la fatigue et pour la joie. S'aimer pour le voyage qui mêle nos bras. S'aimer pour la douceur de l'air, pour l'odeur de la cire, l'odeur du bois.
Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Martine Chaponnière, quelqu'un, quand tu as soutenu ta thèse, une de tes des personnes du jury a dit, en fait, le mouvement féministe a oscillé entre la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et la phrase de, je crois, Sullero, on est femme, mais on peut ne pas le devenir. Alors, on peut ne pas le devenir, justement, en essayant de se débarrasser de tous ces stéréotypes, de tout ce qui nous a créé, de tout ce qui nous crée dans la société femme. Alors, on se posait, justement, juste avant l'interruption musicale, qu'est-ce qu'on est quand on a tout enlevé? Qu'est-ce qui reste? Et beaucoup de femmes, ce sont des féministes, certaines tendances du mouvement, ont essayé de chercher un peu ailleurs, avant, dans notre passé, qu'est-ce qu'on pouvait être? Qu'est-ce que pouvait être ce féminin?
Oui, il y a eu toute une tendance qui est, à mon avis, fortement née de la pratique des groupes de conscience. Parce que quand on s'est retrouvé entre femmes dans les groupes de conscience, on se retrouvait un peu comme dans le ventre maternel. C'est-à-dire dans un liquide un peu chaud, avec cette chaleur maternelle qui régnait, pas d'agressivité, une communion avec les autres femmes, comme il y a une communion avec la mère. Et je crois que ce retour au primordial a pris une force énorme et s'est déplacé également au retour au primordial dans le temps. Et que finalement, comme nous ne savons plus qui nous sommes et qu'il y a eu cette crise d'identité tellement forte des femmes, il a bien fallu aller chercher ailleurs. Et ça a donné naissance à ce que j'appelle le féminin paléolithique, d'une façon un peu ironique, mais qui a été très fort, qui est de dire nous sommes, au fond, les femmes, c'est d'être à côté, c'est d'être en marge, c'est d'être sorcière, c'est d'être nous sommes la fertilité, retour aux déesses, etc. Et c'est encore aujourd'hui assez fort, parce qu'il y a eu AF Information, par exemple, il y a eu une animation il y a à peine une année, je crois même moins, qui s'appelait « Ces déesses qui nous habitent ». Donc, je crois que dès qu'on est un peu paumé, on a tendance à retourner au mythe. Hein. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je relis Antigone dans mes moments de déprime ou Cassandre de Christa Wolf. C'est vrai, il y a ça. Mais là, ça a pris vraiment, je trouve, une force collective. Et si tu permets, je donne juste un petit exemple de ça. Ça, c'est un texte de Marilyn French. Marilyn French, par exemple, elle est très représentative de ça. Et elle dit... Oui, il a existé un jardin où nous cueillions des fruits et des plantes, où nous chantions sous la lune, jouions et travaillions ensemble et regardions les enfants grandir. Dans l'ensemble, la vie était belle et nous nous adonnions aux arts et aux rites pour célébrer notre participation au spectacle grandiose et au processus de la vie. Nous étions liés à la déesse et à son immanence dans la nature, etc. etc. Donc, et moi, je trouve dangereux ce retour à la nature.
Bien que, moi, tu cites aussi une autre, tu cites ma Mary.
Oui.
Dans la semaine qui dit, en fait, et là je lis aussi,
oui.
C'est qu'on pensait que si elles, donc
les féministes,
furent agentes sociales et que si leur conception de vie ont pu fonder un projet social convenable, nous autres aujourd'hui le pouvons maintenant. Mm-hmm. Donc c'est vrai que penser que ça a pu exister, ça donne un peu force peut-être à ce qu'on construit aujourd'hui.
Mais moi je ne crois pas qu'elles étaient... Je ne crois pas qu'elles étaient agentes sociales. Mmh. Franchement, je ne crois pas. Je crois que les femmes sont devenues agentes sociales le jour où elles ont pris conscience que, en se groupant en tant que femmes, elles étaient une force. Et ça, c'est récent. Ça date du début du siècle. Je ne crois franchement pas que la grande déesse et les autres qui regardaient leurs enfants grandir en cueillant des fleurs sous la lune, elles étaient une force sociale. Je ne crois pas.
Mais bon, pour revenir à ce féminin qui se cherche, ce manque d'identité, bon, nous ici, par exemple, à la pleine lune, on essaye de le suivre à la trace en interviewant, par exemple, des femmes créatrices, des femmes écrivaines, des femmes peintres ou musiciennes, en leur demandant, mais dans votre création, comment justement ce féminin s'ébauche, se montre, se dessine, quel est le parcours, en fait, que... Quel est ce parcours ? Et on n'arrive pas vraiment à définir quelque chose. C'est très fluent, très fluide, et on arrive encore à une image effectivement terriblement éclatée. Comme tu le dis d'ailleurs, il n'y a plus une femme, il n'y a plus un modèle. C'est des modèles éclatés, tellement individuels que qui va s'y reconnaître ?
Il faut dire aussi que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles c'est difficile de savoir quelle est la part féminine dans la création. C'est que soit on retombe dans les stéréotypes, soit... On décrète arbitrairement ce qui est du féminin et ce qui est du masculin selon Jung ou d'autres. Or, nous avons tous en nous cette part et toutes, c'est une part de féminin et une part de masculin. Et quand la créativité est en jeu, c'est franchement difficile de dire si c'est la part masculine qui entre en jeu ou si c'est la part féminine. Ça dépend peut-être de ce qu'on raconte. Si on raconte une expérience où l'être femme joue un rôle primordial, je pense que c'est la part féminine. Mais quand on voit par exemple, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais « Les mémoires d'Adrien » de Marguerite Yourcenar, c'est impressionnant comment elle se met à la place d'un homme. C'est fantastique. Où est la part féminine dans ce livre ?
Non, mais par ailleurs,
d'une grande beauté.
La contradiction, c'est qu'effectivement, on cherche dans nos créations ce féminin, tout en sachant qu'une création ne sort pas de nulle part. Elle est produite par quelqu'un, un être social qui, justement, a été socialisé dans un certain moule. Donc là aussi, on retrouve un peu cette contradiction.
Oui, mais je ne sais pas trop quoi ajouter à ça, si ce n'est que je suis d'accord. Et j'ai eu la même expérience, puisque mon corpus pour cette thèse était Femmes Suisses, il y a eu une année, chaque mois, une interview d'écrivaine. Et vous voyez que je fais des progrès. Et elles, on leur posait la même question que toi, tu posais à tes interviewées. Et elles disent, mais moi, je me rends compte que j'agis plus fémininement parce que, par exemple, je demande plus aux autres de collaborer. Mais de nouveau, qu'est-ce qui nous dit que c'est plus féminin ?
Oui, effectivement. Je crois qu'on en vient à la fin de notre émission. Alors là, on a fait le tour très en passant de cette immense thèse, donc c'est 360 pages, elle n'est pas disponible encore. Bon. Mais parle-nous maintenant de la confection de cette thèse. Combien de temps tu y as passé ? Est-ce que tu incites les femmes qui sont actuellement dans une carrière, dans un cursus universitaire à faire ça ? à faire ces recherches féministes?
Ah oui. Oui, je trouve que c'est une expérience, quoique assez pénible et assez douloureuse, surtout la dernière année où il faut vraiment, c'est assez solitaire la thèse. J'incite les femmes qui en tout cas veulent faire une carrière académique à faire une thèse et si elles ont la possibilité de faire une thèse féministe, et puis je crois que la possibilité, il faut se la créer. Je trouve que c'est une occasion extraordinaire de réfléchir sur des choses qui nous intéressent et qu'on a vécu ou vécu par procuration, disons. Mais c'est long. Je crois que entre le moment où j'ai décidé d'en faire une et le moment où je l'ai soutenue, il s'est passé 8 ans. Mais la rédaction elle-même a duré 3 ans. Tout le reste est de la gestation. C'est affreusement long, la gestation, jusqu'à ce qu'on arrive à mettre l'idée et au point.
Et une fois...
Oui,
9 ans,
oui, absolument. mais une fois qu'elle est au point, alors à ce moment-là, ça part.
Et puis une chose que tu signales à la fin de ton livre, et c'est la conclusion, c'est que ces recherches féministes contribuent finalement à constituer, à la construction de cette identité féminine. Et j'aimerais juste lire le dernier paragraphe de ta thèse. « Aucune norme ne balisant plus le parcours, ni aucun modèle n'en constituant la fin, la recherche féministe tend encore, cependant, comme toute éducation, à la construction d'une identité. » Mais ce que promet avant tout le désapprentissage vers l'inconnu du féminin, c'est une éducation des femmes à la liberté, non pas de devenir ce qu'elles sont, mais d'être ce qu'elles deviendront. Martine Chaponnière, merci beaucoup d'être venue.
C'est moi.
À très bientôt, j'espère.
Merci.